après la guerre, en Dieu, à la vie, à la nature, à la volonté de vivre. Dieu, la formule pour toutes les calomnies de l'en-deçà, pour tous les mensonges de l'au-delà. Le néant divinisé en Dieu, la volonté du néant sanctifiée. La charge est un peu brutale. Elle ne vient évidemment pas d'un ami des chrétiens, mais du philosophe Friedrich Nietzsche, dans un de ses derniers ouvrages, dont le titre suffit seul à comprendre de quoi il est question. L'Antéchrist, imprécation contre le christianisme. En matière de remise en cause du christianisme, nous pourrions également nous référer à Karl Marx quand il affirme que la religion est l'opium du peuple, ou bien au développement de Sigmund Freud sur le caractère artificiel, mais psychiquement utile selon lui, des religions dans l'avenir d'une illusion. Derrière la critique du christianisme par ceux que l'on appelle communément les maîtres du soupçon et que des philosophes d'aujourd'hui recyclent à leur façon, il faut sans doute lire une interprétation partiale et insuffisante du message de l'Évangile et en premier lieu des béatitudes. Haine de la vie, résignation, fantasme, est-ce là la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous entendons ce matin? Pas du tout, si l'on accepte d'entendre ces paroles avec bonne foi. Les béatitudes sont d'abord un rappel que Dieu veut le bonheur de l'homme. Elles sont une révélation de Dieu pour tous les hommes. Elles sont enfin une invitation à vivre pleinement heureux en Dieu dès ici-bas. L'athéisme contemporain se nourrit de l'idée que le dessein de Dieu sur l'homme entrerait en concurrence avec notre plein épanouissement. On n'hésite pas à parler du Dieu pervers, qui met à rude épreuve les hommes, même ceux qui lui sont attachés. Allons relire le récit du sacrifice d'Isaac en Genèse 22. Ce même Dieu qui légitime la violence. Nous n'avons qu'à relire tel ou tel récit de bataille dans les livres historiques de la Bible. Pour essayer de sauver les meubles, certains voudraient mettre de côté le Dieu de l'Ancien Testament, qui de fait suscite des questions légitimes, et ne garder que Jésus, parce qu'il ne serait qu'amour. Pourtant, n'est-ce pas lui qui est venu apporter le feu sur la terre? Certes, Jésus est le Fils de Dieu, la plénitude de la révélation, mais aussi celui qui accomplit les Écritures. N'oublions pas que le mot « heureux » n'est pas l'apanage du Nouveau Testament. Le premier psaume commence lui aussi par le mot « heureux ». Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Depuis les commencements, le projet de Dieu pour l'homme est un projet de bonheur, car la création est une bénédiction. Souvenons-nous, cela était très bon. Et l'action de Dieu est bienfaisante. Écoutons aussi à nouveau le psaume de ce jour. Le Seigneur fait justice. Le Seigneur délie. Le Seigneur ouvre. Le Seigneur redresse, le Seigneur aime, le Seigneur protège. Comment l'homme pourrait-il redouter et même vouloir rompre avec un Dieu qui lui veut du bien? Le mal, certes, demeure la pierre d'achoppement pour un grand nombre de personnes engagées dans une quête spirituelle profonde et honnête. Mais justement, le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu doudou, un Dieu bisounours. Il n'aime pas la souffrance, il n'aime pas la mort, mais il est prêt à les assumer car elles font partie du monde tel qu'il est. Notre Dieu est un Dieu réaliste. Si le Christ est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption, comme le dit saint Paul, c'est en passant par le bois de la croix, non pour exalter l'ignominie, mais pour la mettre à terre. La plus grande difficulté pour nous tous réside sans doute dans la manière dont Dieu révèle à quel bonheur nous sommes appelés. À cet égard, l'écoute des béatitudes peut nous laisser bien perplexes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Jésus désigne comme heureux des personnes qui vivent des situations de souffrance. Ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, mais aussi les pauvres et ceux qui ont faim et soif. Bien que les béatitudes dans la version de saint Matthieu spiritualisent ces deux derniers groupes, heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, on a bien affaire à des personnes en situation difficile. Pourquoi ce choix de Dieu ? Les joyeux, ceux qui vivent dans la tranquillité, qui ont de quoi vivre dignement et se portent en bonne santé, ne pourraient pas bénéficier des faveurs de Dieu ? Seraient-ils des malheureux qui s'ignorent ? Tout d'abord, Dieu vient au secours de ceux qui en ont le plus besoin, à ceux que le péché des hommes, y compris le leur, enferme dans des situations invivables. Il promet l'avènement d'un royaume de justice et de paix. Deuxièmement, saint Paul nous donne une explication claire. Il semble que le choix de Dieu va d'abord aux fous, aux faibles, aux gens d'origine modeste, méprisés dans le monde, bref, à ce qui n'est pas, pour une bonne raison. Je cite, « Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. » Le risque qui nous guette quand tout va bien est de nous attribuer ce bonheur et surtout de nous en satisfaire. Alors, quand tout va bien, à ce moment-là, qu'avons-nous besoin de Dieu ? La mise en avant des fous, des faibles et de ce qui n'est pas nous replace au cœur du projet divin. Le Seigneur nous aime et ne veut rien d'autre que notre réponse à cet amour dès aujourd'hui. Avec les béatitudes, Jésus nous dit que personne n'est exclu du bonheur en Dieu, quelle que soit sa situation, même ceux qui objectivement nous apparaissent comme les damnés de la terre. Et ce bonheur n'est pas à situer dans une perspective lointaine. Rappelons-nous la première exhortation de Jésus entendue dans l'évangile de la semaine dernière. « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Pas loin, tout proche. Il appartient même déjà aux pauvres de cœur et aux persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux, et non pas sera à eux. La béatitude s'écrit au présent. Le royaume est déjà là, mais pas encore accompli. À nous d'agir pour cela avec la grâce de Dieu. Si, comme nous l'avons entendu dans le psaume, Dieu est le premier engagé dans notre bonheur, nous avons à lui apporter notre coopération pleine et entière. Jésus désigne également comme heureux quatre catégories de personnes qui, ayant fait place à Dieu dans leur vie, peuvent manifester par leur vertu la proximité du royaume des cieux. Les doux, les miséricordieux, les cœurs purs et les artisans de paix. L'année passée, l'Église a d'ailleurs fait l'expérience que la miséricorde accueillie et mise en œuvre concrètement était un moyen puissant pour changer le monde à la manière de l'Évangile. Dans la perspective de voir le monde changer, le jeune Nietzsche, encore lui, invitait sa sœur Elisabeth à se risquer en parcourant de nouveaux chemins dans l'incertitude de l'avancée autonome. Et il pensait cette avancée autonome comme quelque chose de positif. Et il ajoutait, « À ce point, les chemins de l'humanité se séparent. Si tu veux atteindre la paix de l'âme et le bonheur, et donc la foi. Mais si tu veux être un disciple de la vérité, alors cherche. » Comme tu te trompes, mon pauvre Nietzsche, sur ce qu'est la foi. En tout cas, sur celle que professent les membres de l'Église du Christ. Tout d'abord, pour trouver le bonheur en Dieu, encore faut-il le chercher. Et c'est bien l'invitation entendue dans le livre du prophète Sophonie, « Cherchez le Seigneur ». La foi est tout sauf une façon commode d'atteindre la béatitude sans bouger. Elle est une dynamique qui nous fait sortir de nous-mêmes et de nos divans. Encore faut-il accepter la dépendance vis-à-vis de Dieu. Mais quelle douce dépendance que cette dépendance d'amour ! Encore faut-il accepter de mettre nos pas dans ceux du Christ, ces pas qui passent par la croix. Et nous l'avons entendu, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Le bonheur en Dieu n'est jamais une aventure solitaire. Il se vit au pluriel, au sein d'un peuple pauvre et petit qu'on appelle l'Église. L'Église qui est le corps du Christ. Saint Paul nous le rappelle, vous êtes dans le Christ Jésus. Si nous vivons les promesses de notre baptême, si nous faisons de chaque jour une occasion de nous convertir et d'aimer, alors nous sommes unis au Christ et entre nous, alors nous vivons vraiment la belle exigence des béatitudes. Amen.